Tout au long de cette semaine, Radio Ondaine vous propose du lundi au vendredi à 13h un programme sur les addictions. Une série d'émissions avec des professionnels de santé, des acteurs de la prévention, réalisées par Radio Ondaine en studio ou en extérieur et même autour d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information. À retrouver en rediffusion sur le 90.9 FM et sur notre site internet www.radio-ondaine.fr. Pour cette nouvelle émission, nous allons aller du côté du Centre Rimbaud à Saint-Étienne, un lieu de soins des addictions en lien avec l'usage d'un produit ou à la répétition d'un comportement. Et nous allons aller plus précisément vers sa consultation jeunes consommateurs. La CJC est destinée à l'écoute et l'accompagnement des adolescents et jeunes adultes en difficulté avec leur consommation de substances psychoactives ou les pratiques addictives comportementales.
Eh bien, bonjour, Rémi Aubrespin. Donc, effectivement, je suis coordinateur de la consultation jeunes consommateurs. Je suis infirmier de formation. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille dans le secteur de l'addictologie, initialement sur le CHU et maintenant depuis 13 ans au Centre Rimbaud. Et donc, j'assure des missions de développement de la consultation jeunes consommateurs avec la question de la recherche et de l'implantation sur les différents territoires. Et puis, j'ai aussi en charge la question de la programmation des activités de prévention.
Alors, le Centre Rimbaud, on va le resituer. Hein. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? Qu'est-ce que l'on y fait dans ce Centre Rimbaud?
Alors, le Centre Rimbaud, c'est ce qu'on appelle un centre de soins en addictologie qui regroupe plusieurs services. C'est une structure associative qui existe depuis 1978. Ça me paraît important de signifier que c'était à l'initiative du professeur Michel Debout, qui vient de nous quitter il y a une dizaine de jours. Au jour où nous parlons. Et le Centre Rimbaud, à travers ses différents services, va essayer d'accueillir les personnes qui se posent des questions, qui ont pu identifier des difficultés en lien avec leur conduite addictive, et on va tenter de les accompagner pour trouver leurs propres solutions pour réussir à se rétablir, à redonner du sens à leur existence, à réfléchir la place des conduites addictives et essayer de retrouver le meilleur équilibre de vie possible.
Alors des travailleurs sociaux, un médecin aussi, me semble-t-il, un infirmier également, et puis un accès entre guillemets pour tout de moins l'emplacement à Saint-Étienne un peu libre.
Effectivement, une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmiers, un médecin, des infirmiers, psychologues, des éducateurs spécialisés, une assistante sociale, une neuropsy. Et à travers différents services, donc à Saint-Étienne, on est basé 2 boulevard des États-Unis, et la porte d'entrée d'un des services qui est le CARUD, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, l'accueil se fait effectivement sur des modalités qui peuvent passer par un dispositif où on va venir prendre un café, pouvoir prendre une douche, laver son linge et surtout être en lien avec d'autres personnes dans la même situation et rencontrer des professionnels qui sont permanents sur l'accueil.
Alors si l'on revient sur la consultation jeunes consommateurs, pourquoi ça existe ?
La consultation jeunes consommateurs, c'est un dispositif qui a été créé, en tout cas validé en 2004. Donc on vient de célébrer cette année les 20 ans du dispositif. C'est un dispositif qui a émergé du questionnement autour de la problématique de la place des conduites addictives dans tout le champ de l'adolescence et donc du psychodéveloppement d'un jeune qui apprend à se connaître, qui apprend à se construire, qui tente tant bien que mal en s'appuyant sur ses compétences psychosociales de franchir les différentes étapes qui vont le conduire du côté de l'âge adulte. Et on a identifié que, alors c'est pas nouveau la place des consommations à l'adolescence, on a essayé d'en comprendre le sens. Et la volonté initiale, ça a été de sortir ces questionnements d'une problématique sanitaire, c'est-à-dire d'envisager que l'adolescent soit une personne malade, y compris quand des conduites addictives peuvent parfois paraître excessives. Donc il y a eu tout un champ de réflexion en 2000, qui a commencé avant 2000, mais qui a été concrétisé en 2004, avec la validation par au niveau du ministère de la Santé de la création de ce dispositif et donc la question de l'accueil inconditionnel de jeunes qui ont des conduites addictives ou alors qui s'interrogent sur le rapport qu'ils pourraient avoir avec des consommations, avec des comportements sans substance qui pourraient s'avérer problématiques. Et donc notre travail, ça va être de les accueillir. Donc c'est un accueil anonyme et gratuit. On ne passe pas par la question d'une carte vitale, par des démarches de tiers payants. Et notre cadre législatif nous permet d'accueillir des mineurs sans l'autorisation de leurs parents. Voilà. On a le même statut à ce niveau-là que les centres de santé sexuelle ou que la maison des adolescents.
Alors effectivement, ça c'est important parce que on peut des fois mettre des barrières du fait d'être mineur, de l'autorisation des parents, et qu'ici voilà le message passe de cette manière-là en disant il est possible de venir nous voir, vous avez le droit, si l'on considère ces jeunes consommateurs entre guillemets comme mineurs, hein, parce qu'il y a les jeunes adultes aussi, hein, on s'arrête pas non plus à 18 ans. Il faut savoir que ça existe. C'est peut-être aussi important, alors par le biais d'émissions de radio, comment on fait savoir que cette consultation jeune consommateur existe ?
Alors très clairement, c'est là que le bât blesse, c'est que la question de la communication, c'est un métier à part entière, et en général dans le champ du médico-social, on n'est pas très très doué là-dedans. Donc on réfléchit à toute la place qu'il peut y avoir sur de l'affichage, sur de l'information. Donc effectivement, merci pour l'invitation, parce que les émissions de radio, on s'aperçoit qu'elles ont cette faculté à malgré tout pouvoir nous ramener un petit peu du public. On travaille beaucoup toute la question du partenariat avec les professionnels de première ligne, c'est-à-dire ceux qui travaillent directement au contact des jeunes au quotidien. Et puis on tente, et là pour le coup on n'est pas encore très, enfin on n'est même pas bon du tout, d'être présent du côté des réseaux sociaux. Pour l'instant c'est très balbutiant, mais en attendant effectivement faire connaître le dispositif, c'est un des enjeux avec lequel on est un petit peu coincé de temps en temps.
Alors vous répondez aussi à l'invitation de centres sociaux, d'établissements scolaires, j'imagine. Quand on va la présenter face à un groupe d'adolescents, quelle est la prise de conscience, entre guillemets, ou la prise de conscience, mais l'intérêt porté à vos venues en fait ?
Ce qui est important, c'est bien de le souligner, effectivement, c'est l'idée que les personnes qui vont nous orienter du public, des jeunes ou leur entourage, soit se sentent en capacité d'expliquer à peu près ce qui est notre travail. Et souvent, ça passe par un petit peu par la négative, c'est-à-dire la première chose importante, c'est d'expliquer que notre boulot, c'est pas d'accompagner un jeune à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter de se mettre en danger. Puisque d'une part, on n'en a pas la légitimité, et que d'autre part, ces processus font partie de la clinique de l'adolescence et de comment j'apprends à exister, comment je me sens vivant à travers ma construction sur un savoir expérientiel. Donc occulter, délégitimer ce savoir expérientiel, ce serait ne plus prendre en compte la parole de l'adolescent. Donc c'est important pour nous de bien signifier que on n'a pas un poids moral à apporter. La deuxième chose, c'est d'expliquer que on ne pensera pas à la place du jeune qu'on accueille. C'est pas à nous de fixer les objectifs que lui souhaitera établir. Par contre, à partir du moment où des objectifs commenceront à se dessiner, on pourra accompagner à la construction de stratégies qui permettront aux jeunes d'atteindre ces objectifs. Donc tout ce travail, ce qu'il y a d'important, c'est que ça se déroule sans tabou. On est en capacité d'entendre toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le quotidien d'un jeune, et qui peuvent être le facteur qui vont faire que des conduites addictives qui peuvent paraître anodines dans un premier temps risquent de découler sur une addiction. Parce qu'à partir de ce moment-là, une addiction, en fait, c'est, pour refaire un petit peu de clinique, c'est à partir du moment où on a trouvé une solution un petit peu magique qui vient répondre à ces difficultés du quotidien, qui évite de penser, qui évite de se morfondre, qui évite les ruminations, qui peut être un beau frein au suicide aussi, d'une certaine manière. Et donc, à partir du moment où on a trouvé un comportement, où on a trouvé un produit qui va venir apaiser un petit peu tout cet élément de souffrance, la tentation, ça va être de s'y retourner systématiquement. L'addiction va s'installer à partir du moment où le produit ou le comportement qui est notre solution va lui-même devenir la cause de difficultés supplémentaires qui vont s'ajouter et qui vont créer un cycle. Quand on parle de cercle vicieux de l'addiction, c'est ce moment-là. Quand ma solution unique devient elle-même la source de mes problèmes.
Alors l'addiction, effectivement, on imagine souvent la consommation de substances, de produits. On parle du tabac, de l'alcool, on peut parler d'autres drogues. Puis il y a aussi ce comportement face à l'écran, face aux jeux de hasard et d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est palpable chez vous ?
On a beaucoup de sollicitations sur la question des écrans. Très clairement, de nombreux parents et puis de nombreux acteurs de première ligne, des infirmiers scolaires, des animateurs de centres d'animation, de choses comme ça, s'inquiètent du temps que passent les adolescents sur leurs écrans connectés, et c'est une réelle préoccupation. Si on recentre vraiment sur la question de l'addiction, on n'est pas tout à fait au clair sur l'idée qu'il y ait une réelle addiction à l'écran. Par contre, l'écran lui-même va être le véhicule qui va conduire à certains comportements addictifs. Donc, vous citiez les jeux d'argent et de hasard. On voit une explosion de l'offre, et notamment à destination d'un public, des publics les plus jeunes, essentiellement à travers le prisme des paris sportifs, mais un petit peu aussi des casinos en ligne. Ce qui a comme conséquence qu'on commence à voir se développer dans certains endroits des espèces de réseaux de blanchiment des gains des mineurs, avec des personnes majeures qui vont trouver la méthode pour encaisser les gains et puis qui vont prendre leur commission au passage. Et puis la question des réseaux sociaux, qui est extrêmement présente et préoccupante, on commence à se dire que à travers toutes les dynamiques qu'il y a autour de la libération de dopamine face à certains comportements sur les réseaux sociaux, on pourrait se retrouver face à des conditions qui sont en train de créer de nouvelles addictions. Donc on est extrêmement vigilant, on a des missions de veille de ce niveau-là. On s'appuie sur les études de personnes qui vont analyser un petit peu toutes ces tendances, qui vont essayer de voir la corrélation qu'il peut y avoir entre la diminution de certaines conduites addictives et puis l'augmentation du temps passé sur les écrans connectés. Donc effectivement, c'est une problématique qui est un petit peu particulière, celle des écrans, puisqu'elle est à la croisée de toute la dimension éducative. La plupart du temps, quand on est sollicité par des parents sur la question des écrans, on se situe davantage du côté de l'accompagnement à la parentalité, et donc aider à restaurer un cadre parental et à se sentir à l'aise, à poser des limites et surtout à essayer de les tenir avec ses adolescents. On peut se retrouver face à des situations de conduite addictive qui commencent à émerger par le biais de, donc comme je le disais, des réseaux sociaux, de toute la question des jeux d'argent et de hasard. Et puis on peut aussi aller du côté de tous ces mouvements que vous décriviez autour parfois du harcèlement, parfois de la vulnérabilité qu'on va avoir face à toute la dynamique des fake news, de théories complotistes auxquelles certains jeunes pourraient être sensibles.
Alors aussi le phénomène de mode, hein, qui peut ressurgir de ces contenus avec quelque chose qui revient un peu sur le devant de la scène, hein, en utilisant cette expression un peu maladroite, mais c'est ce protoxyde d'azote, le gaz du rire, qui paraît tout à fait anodin à première vue, en vente quasi libre, me semble-t-il. Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si anodin que ça.
Alors, les réseaux sociaux, oui, peuvent être porteurs d'un certain nombre de phénomènes de mode. On est régulièrement interrogé sur la place de la drogue du zombie, du protoxyde d'azote, du phénomène de la crise des opioïdes en Amérique du Nord, avec la surconsommation de fentanyl. Un petit peu ces nouvelles tendances. Effectivement, l'expression est peut-être pas très adroite non plus. Les réseaux sociaux vont être porteurs de toutes ces nouvelles dynamiques. On s'aperçoit, et c'est pas toujours intuitif, souvent de notre regard d'adulte, on pense que c'est plutôt les paris qui vont, les jeux un petit peu stupides et ordaliques autour de la surconsommation d'alcool, de protoxyde, de la vitesse, de toutes les conduites à risque adolescentes vont être promues par les réseaux sociaux. Et quand on interroge les jeunes, notamment sur des actions qu'on va mener dans des établissements scolaires, on s'aperçoit s'aperçoit que ces réseaux sociaux sont aussi des vecteurs de facteurs de protection et que les expériences relatées sur les réseaux sociaux vont plutôt participer de mécanismes de prévention. Quand on parle du protoxyde d'azote, beaucoup de jeunes qu'on rencontre sont parfaitement au courant des risques neurologiques, de risques de paralysie, de choses comme ça qui peuvent émerger d'une surconsommation de protoxyde d'azote. Et ils ont appris tout ça sur TikTok, sur différents réseaux sociaux, à travers les expériences de personnes qui viennent essayer de contrecarrer les tendances qu'il peut y avoir à répondre à un phénomène de mode. Après, sur la question de la vente quasiment libre du protoxyde d'azote. Le protoxyde, c'est un produit de consommation courante qu'on trouve dans nos centres commerciaux depuis plusieurs décennies. C'est ces petites cartouches qu'on utilise dans les siphons à chantilly, par exemple. Ce qui est venu restreindre un petit peu la vente, c'est que depuis maintenant 2 ans, me semble-t-il, la vente est restreinte aux mineurs. Donc, quand on n'a pas 18 ans, on n'est plus censé pouvoir acheter de protoxyde d'azote. La réalité étant que les consommations de protoxyde d'azote passent par des circuits complètement différents et que c'est maintenant à travers les réseaux sociaux, en scannant un flash code, qu'on va pouvoir commander la prochaine bonbonne. Le contenant a changé, on est clairement du côté de la contrebande et du marché noir. Donc cette restriction, je ne suis pas certain qu'elle ait un réel impact, si ce n'est sensibiliser la population générale à la potentielle dangerosité de ce produit.
Alors vous revenez en tant que formateur, vous avez formé un certain nombre de personnes récemment à Paris autour de ces consultations jeunes consommateurs. Est-ce que c'est important ça de le développer sur le territoire? Et est-ce que des discussions que vous avez pu avoir, est-ce que on voit des disparités sur certains territoires? Alors parlons du positif, hein. Disparité peut-être sur la fréquentation. Est-ce qu'il y a des territoires où peut-être les consultations jeunes consommateurs sont plus comprises, plus entre guillemets utilisées? Voilà, est-ce qu'on constate des disparités, des similitudes?
Alors des disparités, il y en a inévitablement. Alors parfois ça découle de choix institutionnels, mais assez fréquemment ça découle aussi des disparités en termes de financement. Donc toutes nos structures sont sujettes à des financements des agences régionales de santé, et parfois certains choix stratégiques peuvent conduire à une meilleure ou une moins bonne présence sur les territoires. Ce qu'on constate surtout, c'est que c'est la formation des acteurs de première ligne, la capacité à les accompagner à monter en compétences, qui va permettre à ce que on ait des orientations plus régulières et que notre dispositif continue à être à exister, à prendre à être en vie sur le territoire. Donc c'est un travail ça de longue haleine auquel on collabore depuis de nombreuses années avec l'OREAD sur le territoire de la Loire, en participant à de la formation d'acteurs relais. À partir de l'année prochaine, mon collègue Xavier va co-animer une formation sur la question du repérage précoce des conduites addictives, et surtout au-delà de tout ça, une fois qu'on a pu identifier des rapports problématiques, des troubles de l'usage face à certaines conduites addictives, la question principale c'est vers qui on oriente. Et c'est là à ce niveau-là qu'en faisant le pari de la formation des acteurs de première ligne, on va contribuer à augmenter l'offre de soins, l'offre d'accompagnement et d'écoute qui va y avoir sur le territoire.
Alors pour terminer cet entretien, revenons un peu sur la consultation jeunes consommateurs. Comment on accède à vous, en fait? Voilà, quels sont les premiers contacts qu'on peut avoir?
La solution la plus simple, c'est de passer par notre standard téléphonique avec la particularité qui n'est pas celle de Rimbaud, mais qu'un standard téléphonique n'est pas ouvert 24 heures sur 24. En tout cas, en horaire de journée, on peut nous contacter au 04 77 21 31 13. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de préciser son âge et le territoire où on habite, puisqu'on a des dispositifs qui sont présents sur différents territoires. Par exemple, la consultation jeune consommateur est présente sur la vallée de l'Ondaine, à travers où on est en capacité d'accueillir du public dans des locaux qui nous sont mis à disposition par plusieurs partenaires. Je pense à la mission locale, aux services de prévention spécialisés. Et puis on est présent aussi donc sur Saint-Étienne et sa couronne, ainsi que sur tout le territoire du Forêt, donc qui est un territoire un petit peu vaste. Quand on n'est pas très certain de savoir s'il y a une offre de soins présente, on peut aller sur notre site qui doit être centre-rimbaud.fr, il me semble, assez bêtement. Et de manière beaucoup plus générale, quand on se pose des questions, quand on a besoin de connaissances sur l'offre de soins, sur la capacité d'accueil sur un territoire, le site de Drogue Info Service présente une cartographie qui peut conduire où qu'on soit, où qu'on habite, à trouver le dispositif le plus adapté et le plus proche de chez soi.
Eh ben merci pour tous ces renseignements. Merci Rémi Aubrespin d'être venu sur l'antenne de Radio Ondaine nous parler de cette consultation jeunes consommateurs du Centre Rimbaud.
Eh ben merci pour l'invitation.
Ce projet est réalisé par Radio Ondaine et soutenu par la préfecture de la Loire dans le cadre de 1000DK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.